Accent d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
Bonjour à tous. L'Europe et ses frontières, toujours plus infranchissables pour les migrants venus d'Afrique. Des frontières que l'Union européenne repousse également de plus en plus vers le sud. C'est le cas du Niger qui, depuis 2015, et le sommet euro-africain sur la migration, joue le rôle de verrou pour stopper les migrants sur leur route vers l'Europe. Le pays accueille également des milliers de réfugiés refoulés. En contrepartie, le Niger, l'un des pays les plus pauvres de la planète, bénéficie de financements européens. 34 millions d'euros ont ainsi été débloqués en début de semaine pour financer la formation et la sécurité alimentaire dans le pays. Mais ce rôle de sous-traitant africain de la politique migratoire européenne fait débat au Niger. Reportage à Niamey de Catherine Gilliardi.
Voilà, donc vous voyez déjà ici la longue frontière de 1500 km avec le Nigeria.
Au sud.
Et vous voyez ces grandes villes qui sont les principales villes par lesquelles arrivent les migrants qui quittent le Nigeria.
À Niamey, Amidou Nabara est responsable de JMED, une ONG qui combat la pauvreté pour retenir les jeunes qui veulent migrer. Selon lui, la forte présence occidentale dans son pays, au nom de la lutte parallèle contre le terrorisme et contre les migrations irrégulières, viole le principe de la liberté de circulation de la CEDEAO. La migration s'étarie, certes, mais le transport des migrants devenu illégal sous la pression de l'Europe a rendu les routes plus meurtrières.
Comme vous les voyez sur la carte, ici à Niamey déjà vous avez des Américains, des Français et des Allemands qui sont là. Vous avez ici à Tillabéri également une présence française vers la frontière avec le Mali. Et ces principales bases sont situées en fait le long des traditionnels parcours de la migration. Et donc, il y a des dynamiques importantes qui sont en train de se développer, mais qui ont la particularité de développer de beaucoup plus de risques pour les migrants parce que plus on sort du cadre des voies connues, on s'expose à davantage de risques. Et c'est ce qui explique les drames importants que nous connaissons dans le désert nigérien.
Le Niger trouve aussi son intérêt dans cette présence occidentale, selon Florence Boyer, chercheuse à l'IRD, actuellement invitée à l'université de Niamey.
Le Niger est un laboratoire de l'Europe sur certains aspects, sur certains dispositifs de contrôle. Et il est assis à la table des négociations, il est capable de dire non, il est capable de dire oui. C'est que le Niger a à faire face à des risques sécuritaires importants qui, pour le coup, n'ont rien à voir avec la migration, mais qui sont tous les mouvements armés, les mouvements terroristes sur ses frontières, côté Mali, côté Burkina, côté Nigeria, avec la présence de Boko Haram. Et donc l'État a aussi, dans ce contrôle des frontières, des circulations, un intérêt à se doter de moyens, de gens mieux formés, de dispositifs. Et là, par contre, l'État peut aussi s'y retrouver dans un discours qui est aussi commun aux acteurs de l'Union européenne, de mélange des genres entre lutte contre le terrorisme et lutte contre l'immigration irrégulière.
Partenaire de la politique migratoire de l'UE, le Niger a également développé une politique de l'asile. Il accueille les expulsés d'Algérie, les réfugiés des conflits au Mali et dans la région du lac Tchad, et un programme spécial d'évacuation de Libye de personnes jugées particulièrement vulnérables par le HCR. Devant les bureaux du Haut Commissariat aux réfugiés à Niamey, des femmes attendent d'être reçues dans le cadre de ce programme d'urgence appelé par son acronyme anglais ETM pour Emergency Transit Mechanism. Le HCR sélectionne les futurs réfugiés dès les camps libyens parmi les migrants qui ont tenté ou souhaitent traverser la Méditerranée. Ils sont évacués vers le Niger avant d'être réinstallés dans un pays dit sûr en Europe ou en Amérique du Nord. Les évacués de Libye sont installés dans un camp récemment construit à Hamdallah, à quelques kilomètres de la capitale nigérienne. C'est ici que Samuel, un Érythréen de 26 ans, attendait son départ pour la France au printemps dernier, après 9 mois passés au Niger, pour mettre en place la procédure de réinstallation. Qu'avez-vous ressenti au moment de l'évacuation de Libye ?
J'avais l'impression d'être né une deuxième fois. Je ne pensais pas que je survivrais. J'étais si heureux, je me sentais libre.
Vous, maintenant, vous connaissez la date de départ pour la France ?
Ça a été un long processus d'une année. Il fallait attendre avec toutes ces procédures. Mais il y a des gens qui sont là depuis plus d'un an et qui ne savent pas encore s'ils partiront, car la procédure est toujours en cours. Je suis reconnaissant pour ce qui m'arrive et je connais ma date de départ pour la France. Je suis serein et très heureux. Je compte les jours jusqu'à mon départ.
Reste que les obstacles à l'efficacité du programme d'évacuation de réfugiés de Libye sont nombreux. Les autorités libyennes laissent uniquement partir 7 nationalités, dont les Érythréens, les Éthiopiens Oromo, Irakiens, Somaliens, Syriens, Palestiniens et Soudanais du Darfour. Le Niger, lui, rechigne à accueillir trop de réfugiés en même temps sur son sol, en attendant leur départ pour les pays occidentaux, pays qui traînent à accueillir ces réfugiés. En 2 ans et demi, 6200 places ont été proposées en Europe et en Amérique du Nord, une goutte d'eau au regard des plus de 160 000 migrants dénombrés encore aujourd'hui par l'OIM en Libye.
Avec l'année qui commence, reprend aussi le funeste décompte des migrants qui meurent en Méditerranée. C'est ainsi que le quotidien italien Repubblica a signalé lundi un premier décès. Si la route entre la Libye et l'Italie est moins empruntée depuis quelques mois par les migrants qui tentent de se rendre en Europe, les départs du Maroc vers l'Espagne, eux, restent fréquents. Et ce, même si depuis 5 ans, le royaume chérifien fait des efforts pour passer de pays de transit à un pays de résidence pour les migrants, avec plus ou moins de succès. C'est le reportage à Rabat de Cécile Debarge.
Sous le grand dôme du bâtiment contemporain qui sert de siège à la fondation Orient-Occident de Rabat, une médiatrice culturelle présente les lieux.
Nous offrons des cours aux Marocains et aux non-Marocains, des cours d'art, des compétences transversales ou utiles pour la vie quotidienne. Et ils sont gratuits pour les demandeurs d'asile ou les réfugiés. Souvent, les subsahariens ne parlent pas le dialecte marocain. Donc, on leur offre des cours.
La fondation existe depuis 1994, mais c'est surtout depuis 2006 qu'elle accueille un nombre important de migrants lorsque les arrivées au Maroc sont devenues plus nombreuses. Pendant longtemps, pays de transit, voire pays de départ pour les Marocains eux-mêmes, avec le blocage de plus en plus drastique de la frontière, le royaume est devenu un pays de résidence pour certains, comme Aboubakar Sedeka, un Ivoirien arrivé au Maroc en 2015, alors qu'il était encore mineur.
La première fois que je suis venu à la fondation, je m'en souviens, c'était pour un cours de français, puis un cours d'arabe, et puis anglais aussi. Parce qu'au début, mon anglais n'était pas très bon, car je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école.
À ses côtés, Isaac Debanda, étudiant en médecine camerounais. Depuis près de 2 ans au Maroc, il a dû arrêter ses études, trop chères à financer, mais a trouvé dans la musique une vocation qu'il ignorait, et il organise aujourd'hui des ateliers musicaux.
Je suis arrivé au Maroc, je n'avais pas de repère. J'avais souhaité continuer mes études, mais ce n'était pas possible. Et voilà, j'ai retrouvé le cadre idéal où je pouvais continuer à étudier même sans aller dans l'université.
Aboubakar et Isaac souhaitent tous les deux rester dans le pays, conscients que l'Europe est souvent un miroir aux alouettes.
Je suis très heureux de pouvoir étudier au sein de la Fondation. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir accès à cette éducation. Beaucoup de mes frères qui sont ici veulent aller en Europe ou bien faire quelque chose. Mais pour ça, il faut avoir des connaissances. Sinon, comment vous survivez ?
Tenter leur chance au Maroc, c'est le pari des deux hommes et celui de plus en plus de ressortissants subsahariens dans le royaume. Au 1er septembre 2019, le Haut Commissariat aux réfugiés a enregistré 6244 réfugiés dans le pays, originaires de 38 pays différents. 56% d'entre eux sont des Syriens, puis viennent les Yéménites, les Ivoiriens, les Centrafricains et les Congolais. La population réfugiée est 4 fois plus importante qu'en 2014 et la longueur du séjour augmente. Fred Bemba est congolais, il est arrivé en 2001 au Maroc pour y faire ses études et a assisté à la lente transformation du royaume en pays de résidence.
Il y a des avancées positives qui sont mises à l'actif du gouvernement marocain.
Fred Bemba est aujourd'hui membre du CRIDA, le cercle de réflexion sur les migrations et le développement en Afrique.
De nos jours, nous avons des étrangers qui parviennent aujourd'hui à créer des entreprises, chose qui n'était pas possible par le passé. Et d'un point de vue éducation, il y a des enfants subsahariens qui jadis n'avaient pas, la législation marocaine ne permettait pas à ce que les enfants migrants puissent être scolarisés dans les mêmes écoles que les autochtones. Aujourd'hui, les enfants subsahariens sont dans les mêmes écoles que les Marocains.
Le 18 décembre 2014, il y a un peu plus de 5 ans, le gouvernement marocain adopte sa première stratégie nationale d'immigration et d'asile. Principale avancée, la facilitation de l'accès au marché de l'emploi et aux formations professionnelles. Mais la situation d'Aboubakar et d'Isaac, qui ont un travail et des papiers, est loin de refléter la majorité. Appuyé sur l'un des murets qui longe le jardin parfaitement entretenu de la fondation, Franklin est arrivé au Maroc après 4 mois de voyage depuis le Cameroun.
L'idée, ce n'est jamais arrivé ici au Maroc, c'est dû aux circonstances de la route. Oui, au fur et à mesure, on avance. Après, on finit par se retrouver au Maroc.
Ça fait pourtant un an et demi déjà qu'il se trouve dans le pays. En situation irrégulière, à 19 ans, il vivote péniblement.
Au Maroc, il n'y a pas de travail. Le Maroc est comme l'enfer.
Le seul endroit où il trouve parfois un petit boulot, c'est au marché.
Là-bas, on ne demande pas le papier, mais le salaire est très minable. Seulement la journée, on te paye 50 dirhams. Au soir, si tu veux, tu peux venir le soir, tu emballes les habits. On te donne 20 dirhams. Vous voyez? Et ces 20 dirhams-là, que tu as travaillé jusqu'à tes côtes, tu veux se casser en deux.
20 dirhams, c'est à peine 2 euros. 50 dirhams, 4,70 euros. Impossible pour Franklin d'imaginer dans ces conditions s'établir durablement au Maroc. Pour lui, la seule solution, c'est le départ vers l'Europe, tôt ou tard, dès qu'il aura assez économisé pour le passage. En 2019, la Direction générale de la Sécurité nationale a arrêté 27 317 candidats à la migration irrégulière, selon la terminologie officielle, dont 20 141 de nationalité non marocaine. Leur destination, c'est principalement l'Espagne et de là le reste de l'Europe. En août dernier, le gouvernement espagnol a concédé une nouvelle aide de 32,3 millions d'euros au Maroc pour que le pays renforce son contrôle de l'immigration irrégulière.
Et selon les chiffres de la Commission européenne, sur les 11 premiers mois de l'année 2019, l'Espagne a enregistré 23 600 entrées sur son territoire, soit presque moitié moins que l'année précédente. Et parmi ceux qui parviennent à décrocher le droit d'asile en Europe, il y a des histoires à succès. Celle d'Eskedar, par exemple, une jeune Éthiopienne qui a trouvé refuge en Lituanie en 2007. Aujourd'hui, âgée de 34 ans et après avoir bouclé des études de finance, la jeune femme a finalement décidé de se lancer dans la promotion du café de son pays d'origine. Elle propose des dégustations de ce breuvage dans les entreprises. Son portrait, signé Marielle Vituro.
Si Eskedar était un café, elle serait probablement un expresso. La jeune femme est un concentré d'énergie. Un turban jaune, vert, rouge dans les cheveux, les couleurs de l'Éthiopie autant que de la Lituanie, une tasse de café à la main, elle retrace son parcours. Partie d'Addis Abeba, elle a traversé le Soudan, la Libye, puis Malte, pour finalement atterrir à Vilnius, la capitale lituanienne, car elle avait la garantie, avec son statut de réfugié, de pouvoir y poursuivre ses études. Début 2011, son diplôme en poche, elle importe 120 kilos de graines de café d'Éthiopie et fait découvrir cette boisson dans laquelle elle a baigné enfant.
Nous faisions pousser des caféiers dans ma famille. Je mangeais donc les cerises de café, les fleurs aussi. C'est délicieux. Mes parents nous autorisaient même à faire des infusions avec les feuilles du caféier.
Après ses études, Eskedar aurait pu trouver un emploi dans une banque ou dans un grand groupe présent en Lituanie sans grande difficulté. Mais il en est hors de question pour la jeune femme qui veut faire vivre sa culture et donner une autre image des migrants.
J'ai survécu à ma traversée vers l'Europe en tant que femme réfugiée qui a été victime de trafiquants et au travers de mon café. Je compte l'histoire des femmes réfugiées. Je ne témoigne pas uniquement de leur survie, mais de leur potentiel.
Convaincue de ce potentiel, Eskedar s'engage auprès des laissés-pour-compte dans une association qui aide les enfants des rues à travers le football ou en organisant des collectes de robes pour les femmes les plus démunies. Eskedar distribue aujourd'hui son café torréfié au Danemark, mais aussi à Malte, là où son chemin européen a commencé. Il y a quelques mois, elle a acheté des locaux à 2 pas du plus grand centre de réfugiés de Lituanie pour y ouvrir un centre de torréfaction du café.
Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde que le soleil inonde de ses reflets dorés.
Et c'est l'heure de notre chronique en un mot typique et souvent intraduisible. Aujourd'hui, direction la Grèce avec Paréa, une bande d'amis version grecque avec un petit supplément d'âme. Vous allez l'entendre, les explications de notre correspondant à Athènes, Joël Brunner.
Si l'on voulait simplifier le sens du mot Paréa, on pourrait dire qu'il s'agit en Grèce d'un groupe ou d'une bande d'amis. À l'occasion d'une fête, une vingtaine de personnes se retrouvent dans la banlieue nord d'Athènes. de parfaits cobayes pour jouer les linguistes.
En grec, une paréa signifie un groupe de personnes, en particulier un groupe de gens qui se connaissent vraiment bien. Nous passons du temps ensemble depuis tout jeune jusqu'à un âge avancé. Nous sortons par exemple pour prendre un café, pour boire un verre, et nous partageons ensemble nos expériences de vie, les bons comme les mauvais moments. La paréa forme un tout qui englobe à la fois les bonnes et les mauvaises expériences.
Good experiences and bad experiences.
Un groupe qui peut aller jusqu'à représenter l'équivalent d'une deuxième famille.
Une paréa est tout à fait une seconde famille. Et d'ailleurs, pour beaucoup de gens, dont certains viennent d'horizons sociaux très différents, c'est parfois leur seule famille.
Une bande d'amis très proches, une seconde famille, bien. Jusque-là, rien de particulièrement typique. Mais il y a plus dans ce concept de paréa, comme un supplément d'âme.
En Grèce, la paréa est quelque chose de très important. Nous adorons nous retrouver entre amis et aller dans ces restaurants que l'on appelle tavernes. On y parle de nos vies, de notre travail, de nos femmes ou de nos enfants. Pour être clair, la paréa, c'est une part fondamentale de ma vie. Avec ma paréa, on joue au basket, on joue au foot, on mange ensemble. Tous les dimanches matins, on va aussi à l'église ensemble. Avec ce groupe que nous avons construit, nous sommes liés pour toute la vie. Ici en Grèce, la météo est clémente et nous passons beaucoup de temps à l'extérieur. Retrouver mes amis, ma paréa pour être précis, c'est très important. Il y a de l'amour, la paréa est essentielle pour les Grecs.
Tellement d'amour à l'en croire que, au miracle, même travailler peut devenir un plaisir.
Moi, par exemple, j'ai la chance de travailler avec ma paréa. Nous sommes comme une grande famille d'environ 10 ou 12 personnes. Nous sommes tout le temps ensemble. Nous travaillons ensemble. Nous partons en vacances ensemble. Mon travail, c'est serveur et je commence mon service à midi et bien tous les matins, j'ai hâte d'aller travailler pour retrouver ma paréa. C'est vraiment génial de ce point de vue-là.
Quelque chose commence à se dessiner. La paréa est plus qu'une bande d'amis. C'est aussi l'ambiance, généralement conviviale, qui l'accompagne.
Paréa, ce n'est pas un simple mot. Il y a un sentiment à l'intérieur. Je ne sais pas avec certitude si d'autres pays n'ont pas de mots similaires. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, peut-être en raison de la géographie, peut-être en raison du climat, il y a quelque chose qui nous invite à nous réunir. Il existe un environnement idéal pour créer une paréa. Grâce au beau temps et au soleil magnifique en été, mais aussi grâce au tsipouro ou aux autres boissons alcoolisées traditionnelles que l'on boit l'hiver. Bref, il y a des tas de petites choses qui justifient de retrouver sa paréa. C'est un peu, comment je pourrais dire ça, un peu comme une atmosphère. Oui, voilà. Ce mot, c'est une atmosphère et pas seulement un groupe de personnes qui passent du temps ensemble. C'est une atmosphère à laquelle la Grèce et Athènes contribuent et qui incite à vivre avec sa paréa.
La paréa est donc un mot avec, pour ainsi dire, une gueule d'atmosphère. Pas comme dans l'Hôtel du Nord ou Officière Leti, mais plutôt comme dans les cafés du Sud, plébiscités par les Grecs. Ce qui n'empêche pas la paréa de pouvoir dépasser les frontières.
Je me souviens d'une fois à Pékin, en Chine, où j'ai rencontré plusieurs personnes à l'occasion d'une conférence. Par la suite, nous avons formé une super paréa, parce qu'il y avait une vraie connexion entre nous, et nous avons passé un super moment. Nous nous croisons encore parfois et on évoque toujours cette soirée particulière. Donc voilà, c'est possible d'avoir plusieurs paréas, que ce soit avec un groupe d'amis très proches ou des personnes qu'on ne connaît pas au départ.
Méfiance d'ailleurs. Une fête qui tourne bien, et nul n'était à l'abri de former une paréa.
Toi, nous t'avons rencontré aujourd'hui, mais tu fais malgré tout partie de notre paréa, tu vois. Vous tous, les invités, avez été si positifs que vous avez intégré notre paréa. On ne se connaissait pas, et je suis certain qu'on se reverra rapidement. Voilà, une paréa permet l'éclosion de sentiments profonds. Ce n'est pas un simple groupe de personnes.
La fête athénienne s'achève, mais la paréa, l'amitié grecque, elle, demeure.
Françoise Grelot était à la réalisation aujourd'hui. Pour nous écouter, nous retrouver partout, rendez-vous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast. À demain.